Vous écoutez RTL.
7h46, Annick Girardin, vous serez donc à Saint-Martin ce week-end avec le Premier ministre Édouard Philippe. Je rappelle que vous êtes ministre des Outre-mer. Le retour à la vie normale, qui était la priorité absolument du président Macron, est-il réussi, Annick Girardin ?
Alors après deux mois que ce cyclone Irma ait frappé Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la vie a repris. Les urgences ont été réglées et aujourd'hui on est dans la partie reconstruction. Donc la vie renaît à Saint-Martin. C'est toujours trop lent pour ceux qui vivent sur place, qui ont encore des attentes. Mais malgré tout, c'est 75% des foyers qui ont aujourd'hui accès à l'eau, alors que l'ensemble des réseaux étaient détruits. C'est une rentrée scolaire qui va se faire en début de semaine avec la présence du Premier ministre. C'est un symbole fort, même si tout n'est pas parfait. Et puis, bien sûr, c'est le retour de la sécurité, de la chaîne juridique. On voit bien ce qui est réorganisé.
On va prendre les dossiers un par un, si vous le voulez bien. Mais commençons par cette rentrée scolaire. J'aimerais qu'on parle d'abord des enfants. À Saint-Martin, tous les élèves pourront-ils réellement faire leur entrée des classes ? Est-ce que tout est prêt ?
Alors, réellement faire leur rentrée des classes, oui. Tout est prêt.
Dès lundi.
Dans un contexte qui est quand même celui de Saint-Martin, c'est-à-dire d'un territoire qui a été en partie détruit, et avec des bâtiments qui sont soit des bâtiments rénovés, soit des bâtiments que nous avons importés et mis en activité. Donc, les conditions ne sont pas idéales, bien entendu. Mais il était important que tous les enfants reprennent le chemin de l'école, ceux qui sont restés à Saint-Martin, parce que des enfants ont été scolarisés hors Saint-Martin également.
Un élève sur quatre a quitté l'île après le cyclone, je le rappelle. Mais on peut dire aujourd'hui sur RTL, lundi matin, quelles que soient les conditions dans l'absolu, les enfants seront accueillis. Tous les enfants de Saint-Martin seront accueillis, on s'est bien compris.
Alors oui, et ça fait déjà quelques semaines quand même que certains sont accueillis. Et ça, il faut remercier ceux qui ont permis l'accueil des enfants depuis déjà un certain nombre de mois. C'était important que les enfants très vite retournent à l'école, même si c'était des activités éducatives qui étaient organisées dans les classes et pas obligatoirement dans des conditions idéales, mais pour permettre aussi aux familles de reprendre le chemin du travail également.
Le problème, ce sont les établissements parfois dans leur état général et surtout les professeurs. Beaucoup auraient quitté l'île après l'ouragan et sans prévenir. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous nous confirmez les chiffres ? On annonce 140 profs sur 800 qui ont disparu.
C'est possible. J'ai même constaté moi-même, en les croisant et en échangeant avec eux, des enseignants quittant l'île. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée. J'ai estimé qu'à partir du moment où on avait mis ou qu'on avait protégé sa famille, permettant effectivement femmes, enfants, de regagner la Guadeloupe, la Martinique ou la métropole, les enseignants, après quelques jours ou semaines de sas, devaient être présents, puisqu'ils sont payés, sur Saint-Martin, remonter leurs manches et faire autre chose, peut-être que accueillir les enfants, c'est-à-dire réhabiliter l'école.
Enfin,
je suis une fonctionnaire, j'ai été ministre de la fonction publique, j'estime qu'il y avait un devoir d'être présent.
C'est de l'abandon de poste ?
Pour moi, c'est de l'abandon de poste. Ceux qui ne sont pas revenus.
Vous imaginez qu'il puisse y avoir des mesures qui soient prises, des mesures coercitives contre les professeurs qui ont effectivement abandonné leur poste tout
oui,
en continuant
à faire ça. Oui, je ne suis pas la seule à l'imaginer.
Ça va prendre quelle forme ?
Ben, nous verrons. Mais tout devra être regardé, c'est-à-dire qui n'est pas là, pourquoi, dans quelles conditions. Il peut y avoir des gens qui, pour l'instant, ne sont pas prêts à revenir face à des élèves, parce que psychologiquement touchés, eux aussi, ils ont vécu le cyclone. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même un pourcentage de personnes qui devront avoir une bonne leçon, me semble-t-il.
Mais je vous ai bien compris, vous envisagez des mesures coercitives les concernant d'une façon ou d'une autre, la réflexion est en cours et vous pensez qu'on doit donner une suite à ce qu'il faut bien qualifier ce matin d'abandon de poste pour certains professeurs.
Je ne suis pas le ministre de l'Éducation nationale, mais moi je plaiderai pour.
On ne peut exclure des sanctions en tout cas, c'est comme ça que vous l'exprimez ce matin. Les choses sont claires et on a compris aussi que le dossier maintenant est sur le bureau de Jean-Michel Blanquer. On va se retrouver quoi, avec des classes où il y aura une cinquantaine d'élèves du coup ?
Je ne sais pas, on pourra le constater sur place. Vous savez, il y a aussi beaucoup de fonctionnaires, et je veux les remercier, plus de 3000 agents, États, collectivités territoriales, qui étaient sur place, qui sont là, qui aident à reconstruire, parce qu'il ne faut pas, au vu de quelques-uns qui, quelque part, ne sont pas au rendez-vous de leur mission, d'autres l'ont largement fait. Et puis, il y a beaucoup de gens, bénévolement, moi j'ai encore des demandes de gendarmes, d'enseignants, qui m'écrivent et qui me disent comment on peut aller à Saint-Martin quelques mois, une année s'il faut, pour être présent. Donc, il y aura là, à cette rentrée, en début de semaine, un certain nombre d'enseignants. Il y en aura d'autres qui arriveront en complément au fur et à mesure des besoins.
On entendait, en tout cas dans le reportage de Julien Fautrat, que nous diffusions dans notre journal de 7 heures, des élèves qui disaient « L'essentiel est qu'aujourd'hui, on se retrouve et qu'on soit repris dans des structures. » On a bien compris que normalement, ce sera fait dès lundi matin. On va reprendre poste par poste, si je puis dire, les grands dossiers. Où en est-on exactement de l'eau potable au moment où nous parlons ?
Alors, l'eau potable, c'est 75% hein, des foyers qui ont aujourd'hui accès à l'eau potable et dans le réseau. Mais tout ça, non pas parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas fournir, mais parce que les réseaux sont totalement détruits. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que non seulement ce qui est visible a été détruit, mais énormément aussi de réseaux enterrés. Et donc, elle est là, la difficulté. Donc, il faut un peu de temps pour remettre les réseaux en état. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Les forces sont là, on sait ce qu'il faut faire, ça a commencé, mais ça prend un peu de temps.
D'où l'électricité, on en est où ?
Sur l'électricité, la totalité du réseau aujourd'hui fonctionne, comme d'ailleurs l'ensemble des communications ou les transports qui ont repris normalement.
Alors, il y a une question qui est posée quand on parle de reconstruction, c'est est-ce qu'il faut faire vite ou est-ce qu'il faut faire bien ? Je suis désolé de les opposer, mais en effet, ça se pose dans ces termes. On en est où ?
Alors, il y a deux réponses. Il faut faire vite dans certains cas et prendre le temps dans d'autres. Nous le savons aujourd'hui, ce type d'événement climatique seront de plus en plus nombreux ou surtout de plus en plus forts. On l'a vu, hein, des vents de 380 km², c'est quand même quelque chose de jamais vu, de jamais anticipé jusqu'à aujourd'hui. Donc il est important qu'on prenne ces nouvelles données. Et moi, j'ai travaillé sur la COP21 aux côtés des États insulaires quand j'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Et on voyait bien qu'il fallait repenser autrement la construction sur ces territoires, sur ces milieux insulaires. Donc il faut, dans certains cas, prendre le temps effectivement de regarder comment l'aménagement du territoire sera différent sur Saint-Martin, par exemple, ne plus avoir tout enterré. Les questions d'électricité, si les réseaux avaient été enterrés, les dégâts auraient été moins importants. Donc il faut pouvoir le faire. Ensuite, il faut à la fois reconstruire ce territoire qui fera face à des nouvelles conditions météorologiques de ce type, mais en même temps laisser la possibilité d'un développement économique touristique qui nécessite quelquefois qu'un certain nombre de structures soient assez proches de la mer.
C'est contradictoire.
Donc on voit bien que c'est compliqué.
Reconstruire vite, ça permet de faire revenir les touristes et donc de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et en même temps, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque vous nous dites qu'il y a des travaux de fond qui doivent être faits aujourd'hui. Pour y remédier, est-ce qu'on peut envisager une préférence antillaise dans la reconstruction ? Est-ce qu'on va faire appel à la population directement pour leur fournir du travail ? Est-ce que vous pouvez agir en la matière ? Et est-ce que vous estimez que c'est nécessaire ?
Oui, on peut agir en la matière. Oui, c'est important de le faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Code des marchés publics, le président de la République le rappelait en Guyane, permet de mettre des préférences, ou du moins d'inciter à le recrutement, le choix d'entreprises locales pour l'emploi local. On a le choix. Enfin, il faut qu'on assure à la fois la sécurité des habitants et en même temps préserver les intérêts économiques. Et c'est là où, quelquefois, ça prend un petit peu plus de temps, parce que quand on veut faire appel aux entreprises locales, c'est ce que nous faisons sur Saint-Martin, eh bien, il y a des familles qui me disent, moi, pour refaire ma toiture, je n'arrive pas à avoir un entrepreneur avant le mois de février. Parce que déjà, certains, et tant mieux, carnets de commandes sont complets. Et c'est là où il y a cette envie de dire, pour aller plus vite, eh bien, il faut qu'il y ait des entreprises qui arrivent de l'extérieur de Saint-Martin. Et puis en même temps, de se dire, il faut que ce soit le territoire qui reconstruise et qui se prenne en main. Donc c'est cette notion d'équilibre qu'il faut trouver chaque jour.
Une dernière question. Les Calédoniens sont parvenus à un accord politique sur l'organisation du référendum d'autodétermination. Est-ce que vous nous dites ce matin que les conditions sont donc réunies pour que la Nouvelle-Calédonie quitte éventuellement le giron de la République ?
Écoutez, hier, c'est une partie des débats qui ont eu lieu. Ce comité des signataires, après 14 heures de réunion pour moi, 10 heures d'implication pour le Premier ministre, permet de sortir sur un accord politique des acteurs en présence sur la question de l'inscription automatique.
11 000 personnes supplémentaires ?
automatique des natifs kanak de l'île, donc, et aussi des natifs de droit commun, donc des natifs de droit coutumier et des natifs de droit commun, qui sont évalués aujourd'hui hein, à 11 000 personnes. Ça peut être un peu moins parce que les gens peuvent s'inscrire entre les deux de manière volontaire. Ça peut être un peu plus parce qu'il y a quelques recherches complémentaires à faire, notamment du côté des électeurs à statut spécial coutumier.
L'accord est trouvé.
L'accord est trouvé sur cette partie. La discussion existe encore sur faut-il une loi organique on en a besoin ou pas pour répondre à cette nécessité d'inscrire d'office sur les listes électorales ou la liste électorale spéciale consultation.
Merci beaucoup Annick Girardin de venir nous voir ce matin sur RTL. Je rappelle que vous partez aujourd'hui avec le Premier ministre et que vous serez très rapidement donc dans les Antilles françaises. Bonne journée à vous.
Merci, à vous aussi.